Bonsoir et merci de vous joindre à nous dans ce rendez-vous hebdomadaire de la presse ce vendredi 27 juin 2008. Des coups de feu à l'arme lourde et légère ont été entendus depuis la nuit d'hier jusqu'à ce matin à Cabaret, ainsi que dans la commune voisine de Badira. Nous sommes là dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. La MONUSCO, par la voix de son chef, se dit inquiète face à la lenteur du programme Amani. Le sort des Congolais concernés par les différents mandats de la Cour pénale internationale ont fait l'actualité de cette semaine. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga, Mathieu Gougelot et Germain Katanga. Ce sont là les sujets que nous abordons dans cette tribune de la presse avec nos invités. Il s'agit de Félix Kabouizi, directeur de publication du quotidien La Référence Plus qui paraît à Kinshasa, Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Béni dans le Nord Kivu, et Albert Omba, journaliste de Numérica et Tropicana FM. Bienvenue à toutes et à tous. Un calme relatif est revenu ce matin à Cabaret Centre ainsi que dans la commune de Badira après des tirs de cette nuit, œuvre de la 14e brigade basée à Cabaret. Pour rappel, les éléments de cette brigade ont tiré toute la nuit dernière pour exiger de la nourriture ainsi que du bois de chauffe selon l'administrateur de ce territoire. À la mi-journée, les habitants sortent timidement de leur maison pendant qu'une réunion extraordinaire de sécurité était présidée par le gouverneur de la province du Sud Kivu à Bukavu. De précision dans cet entretien de Belinda Bosuma et Didas Namuzumbu.
Bonjour Didas.
Bonjour.
Oui, dites-nous Didas, où en est-on pour l'instant avec la situation sécuritaire dans Bukavu, Kabar et Badira?
Il faut dire que tout est rentré dans l'ordre depuis ce matin, notamment à Badira, où les fidèles catholiques ont pu se précipiter à la messe ce matin à l'appel de la cloche. Les véhicules circulent de nouveau librement. Pour Cabaret, une nouvelle causerie morale se tient depuis 11h, heure de Bukavu, présidée par le général commandant de la 10e région militaire, Pacifique Masunzu. Mais il faut rappeler que le commandant de cette 14e brigade leur avait également parlé ce matin pour les appeler au calme et à regagner leur temps de fortune. À l'heure actuelle, le gouverneur de province préside, comme tu l'as dit, un conseil de sécurité autour de ces dossiers, conseil duquel pourront sortir de grandes décisions selon le vice-gouverneur qui revient fraîchement de Kinshasa, où il a mené justement le dossier de cette brigade à la hiérarchie nationale.
Mais on sait, Didas, que ça a tiré toute la nuit et dans deux coins populaires de Bukavu et Cabaret. A-t-on un bilan, ne fût-ce que provisoire?
Pour l'instant, les sources officielles se réservent de donner un bilan quelconque, en personne ou même en bâtiment touché. Mais les habitants de ces coins signalent que certains militaires blessés sont régulièrement acheminés au centre hospitalier de Badira. Celle-ci est une information jusque-là non confirmée des sources hospitalières.
Mais finalement, quel est le problème de cette 14e brigade quand on sait qu'il y a quelques jours, certains de ces éléments ont refusé d'être redéployés dans le sud de la province?
La 14e brigade intégrée, pour la petite histoire, est arrivée à Cabaret il y a plus de 7 mois en provenance de Massissi dans le Nord Kivu. Depuis, c'est au compte-gouttes que ces quelques 4800 hommes ont été ravitaillés et payés selon leur commandant, le colonel John Chibangu. Affamés et manquant de bois de chauffe, ils se ravitaillent sur le dos de la population qui, lassée, a dû demander que cette brigade soit évacuée de Cabaret. L'opération a effectivement débuté il y a un mois, mais les forces vives de Fizi, où ils étaient redéployés dans le sud, ont carrément refusé leur venue à travers des manifestations bruyantes. Il faut aussi dire que certains militaires, notamment rwandophones de cette brigade, refusaient d'être redéployés dans le sud-sud par peur d'y être maltraités. Mais depuis, ils exigent, tous ces militaires de la 14e brigade exigent plus de considération en utilisant donc leurs armes. On retient donc que c'est une situation que nous devons continuer à suivre.
Merci Didas. À ce sujet, toujours suivant le témoignage de cet habitant de Badira, une commune de la ville de Bukavu, qui n'a pu regagner son domicile hier soir, surpris en route par les tirs d'armes automatiques. Il est joint au téléphone par Emmanuel Mbanda.
Hier vers 20h30, il a quitté la ville pour Badira, directement au niveau de la commune centre. Alors nous avons entendu des cartouches vers les collines qui surplombent la commune. depuis cette heure-là, de 20h30 jusqu'à l'heure actuelle, les cartouches sont en train vraiment de sonner, de crépiter un peu partout. Donc, personne ne peut jeter un coup d'œil à l'extérieur, vraiment, c'est une catastrophe. C'est une brigade qui est venue de Goma, la 14e brigade qui est venue de Goma, et qui est stationnaire au niveau des Kabare, et je ne sais pas si réellement ils veulent descendre sur la commune ou pousser la ville. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas d'idée.
Nicodème Bakoleta, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je précise que vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Béni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à cette situation de Bukavu?
Oui, justement, on vient à peine de l'apprendre. Il faut dire ici qu'une bonne armée se fonde sur certains points, notamment la discipline, l'unité de commandement et tout ce genre de formes. Donc, le contexte de notre pays est tel que l'armée est formée des différentes branches armées issues des composantes et entités qui sont passées par le brassage pour former finalement une armée nationale. Alors, cette situation fait que certains groupes armés obéissent encore à leur ancien chef. Ça, c'est le premier point. Aussi, pour faire d'une armée très forte et républicaine, il faut que les militaires soient bien traités, qu'ils puissent avoir leur solde. Et cela éviterait à ce que le militaire puisse vivre autour de la population. Vous savez, la situation de notre armée est un peu déplorable. Et ça fait mal d'apprendre que ces militaires n'ont pas de nourriture, n'ont pas de boîte de choses. Imaginez comment est-ce qu'ils vont vivre si ce n'est sur le dos de la population. Donc le gouvernement doit s'impliquer pour donner des moyens aux militaires et ce serait une façon aussi de sécuriser la population. C'est ce que je peux dire jusque-là.
Merci Nicodème Bakoleta. Félix Kabouzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes dans ce studio avec nous. Vous êtes directeur de publication du quotidien La Référence Plus qui paraît à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation de Bukavu? Vous avez suivi également Nicodème qui dit que c'est malheureux de constater que notre armée est issue des différentes branches armées et que certains n'obéissent qu'à leurs anciens chef et que le gouvernement doit également bien s'organiser pour les militaires parce qu'il faudrait qu'il leur donne de quoi survivre.
Bon, j'aimerais d'abord nuancer par rapport à ce que Nicodème a dit. Il me semble que depuis plus d'une année et demie, et depuis l'organisation des élections, en tout cas, les militaires qui sont en armes aujourd'hui et qui sont dans les phares d'essai, en principe, ils devraient répondre ou ils doivent répondre ou ils répondent à un seul commandement, puisque les anciens, si vous voulez, les anciens groupes militaires, ou comment on les appelait, les anciennes composantes, c'est-à-dire le RCD et le MLC, se sont transformés en partis politiques, et en principe, aujourd'hui, ils n'ont absolument aucun contrôle sur les unités qu'ils avaient versées dans les RDC. Mais au-delà de cela, moi je pense que ce qui est extrêmement grave, c'est le fait qu'une province comme le sud de Kivu, qui commençait à peine à respirer, si vous voulez, un peu de sécurité, replonge dans des agitations de ce genre-là. Je crois que si un tel mouvement devrait, si vous voulez, être contagieux, devrait atteindre d'autres groupes armés ou d'autres provinces ou d'autres centres dans le sud de Kivu, ce serait extrêmement malheureux. Et là, il me semble qu'il se pose beaucoup de problèmes. Il y a un problème d'organisation, un problème de discipline, comme Nicodème l'a dit. Il y a également un problème, à mon avis, de rassurer les militaires qui compose cette brigade-là. Puis c'est quand il dit qu'il y a des militaires rwandophones qui ne seraient pas prêts à être déployés dans le sud du sud Kivu, c'est-à-dire dans Uvira, Fizi et autres. Je crois que là, il va falloir qu'un programme soit mis de telle sorte qu'une réconciliation soit faite également entre ces différentes communautés, puisque on doit appartenir à une même armée. Il n'est pas normal qu'un certain nombre de militaires aient peur d'être déployés dans telle ou telle autre contrée. Donc je crois qu'il y a un grand travail qui doit être fait au niveau du commandement de notre armée pour que ce genre de problème, vraiment que des militaires se rébellent, tirent toute la nuit juste pour un problème de bois de chauffage, alors que nous sommes dans une province où on ne peut pas manquer de bois de chauffage. Que les militaires se mettent à tirer tout simplement parce qu'on n'a pas à manger. Dans la ville de Bukavu, dans le sud de Kivu, je crois qu'on a un sac de haricots pour moins de $50. Donc je crois que sincèrement, soit que de l'argent a été détourné, soit qu'il y a des gens qui ne veulent pas assumer leur mission, leur attribution correctement. On ne devrait pas avoir, de mon point de vue, des problèmes d'approvisionnement, en tout cas en nourriture, dans des villes dans des villes et des provinces qui ont suffisamment à manger, comme le nord et le sud de Kivu.
Merci Félix Kabouzi. Albert Omba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste de Numérica et Tropicana FM. Des bruits des armes ont retenti à cause de problèmes de ravitaillement et de manque de bois de chauffe. Et puis vous avez également suivi les avis, les réactions, comment la lecture même de nos confrères, notamment Nicodème Bakuleta et puis Félix Kabouzi, qui a essayé un peu de recadrer pour dire que à ce jour, l'armée est une, si j'ai bien compris, et que en principe, ils ne doivent obéir qu'à un seul commandement. Et il a évoqué également qu'il faudrait un programme parce qu'il est incompréhensible aujourd'hui de voir que nos forces armées manquent même de bois de chauffe. Comment vous réagissez, votre appréciation?
Oui, moi j'apprécie, pas différemment de ce que les collègues viennent de dire, mais moi, je trouve ici qu'il y a un problème au niveau du commandement, au niveau de la gestion des troupes, c'est-à-dire il y a l'unicité de la troupe. Si tout ça, ça constitue un danger, un grand danger pour la ville de Bukavu, parce que Kabare, c'est à deux pas de Bukavu. Vous avez vu que quand les coups de fer retentissent à Kabare, directement c'est la commune de Bagira qui est déjà surchauffée et tout le monde est mal à l'aise. Il y a aussi le problème de déploiement des troupes. Ces troupes ici, comme tout le monde vient de le dire, c'était une troupe qui vient de Massissi. Alors, si on les a mis à Calais, c'était juste en réserve au cas où il y a des problèmes au niveau de Massissi, ils peuvent intervenir facilement. Maintenant, il y a eu beaucoup de lamentations au niveau de la population. Il y a plus de 2 mois, la population locale de Kabare s'est lamentée sur les actions que ces militaires commettaient. Et ça m'étonnerait que tous ces gens n'ont pas pu prendre en considération toutes ces lamentations. Il y avait aussi comme le problème de nourriture et de déplacement. Quand on a commencé, il fallait le déployer 4 ou 5 000 hommes dans un territoire comme Kabare. Ça fait un peu trop. Alors qu'on pouvait diviser ces groupes. On prend deux ou trois bataillons, on les envoie à Walungu. Ça pouvait faire quand même un effet de persuasion au niveau de Walungu et où le FDLR qui viennent de Mwenga et tout ça font rage. Donc ici, ce que je voudrais dire, c'est que il faut que le commandement sache quel genre d'éléments constitue l'armée. C'est une armée hétérogène. Il y a eu des groupes. Il faut comprendre le problème de chaque élément. Et c'est malheureux qu'on puisse se révolter pour de la nourriture et du bois. 4 000 hommes, ils peuvent aller dans la forêt, couper le bois et revenir. Donc c'est le problème du commandement, la gestion de ces troupes qui pose vraiment problème à ce niveau.
Nicodème Bakuleta, est-ce que vous pensez comme Albert Omba qu'il se pose réellement un problème de gestion des troupes et des commandements? Parce qu'il a évoqué notamment des plaintes des populations avant que ces événements ne puissent arriver. La population commençait déjà à se plaindre par rapport au déploiement même de certaines troupes.
Oui, justement, il y a le contraire à tout à fait raison, à combat à tout à fait raison. Je voulais aussi un peu cadrer à ce que tu as dit, parce qu'il y a bien dit en principe, les militaires devraient obéir à un seul commandement. Mais la réalité, c'est que c'est autre chose, que parfois les militaires se considèrent plus proches de la seule composante que le commandant actuel. Donc ça, ce sont des réalités qui sont filtrées, mais en principe, les militaires devraient obéir d'un seul commandement. En fait, moi, je vis ici avec les militaires, par exemple, qui viennent des contingents indiens, de tels problèmes de bois de chauffe, par exemple. Et on va l'a bien dit, question d'organiser un groupe, une unité qui devrait aller chercher le bois de chauffe et qui pourrait bien servir aux militaires. Donc c'est ce manque de commandement, de gestion des troupes qui crée tous ces problèmes à notre armée. Il faut que les FARDC puissent tirer certains exemples des soldats de la MONUC qui sont ici. Parce que moi, je vois des contingents qui s'organisent assez bien avec le moyen de bord et puis ils s'organisent très bien.
Félix Kabouzi, vous avez suivi. Bon, peut-être que vous allez essayer d'éclaircir un peu par rapport à la réaction de Nicodème Bakoleta qui dit que, en principe, les troupes doivent obéir à un seul commandement. Mais ce que l'on dit sur terrain est différent de ce qui est recommandé par la loi. Ça, c'est d'une part. Et puis, il donne comme piste de solution que l'on puisse un peu réorganiser le commandement des troupes. Il prend l'exemple, pour de bois de chauffe, les gens doivent tirer en l'air. Il prend l'exemple des contingents de la MONUC basés dans le coin où il vit.
Oui, mais en fait, c'est le problème de la qualité des hommes qui composent notre armée. Mm-hmm. Je crois sincèrement que lorsque les militaires n'ont pas suivi une filière normale et que du jour au lendemain, on les promet, capitaine, je ne sais pas, major, colonel, général, on en a ici des centaines de généraux dans une armée, je ne sais pas, de 100 000 ou de 150 000, je ne sais vraiment pas si dans l'organigramme classique d'une armée, on peut avoir autant de généraux chez nous ici. Il y en a beaucoup vraiment, nous ne sommes même pas en fonction. Des colonels, ça doit être probablement par milliers. Donc je crois qu'il y a un problème de qualité des hommes qui animent cette armée. Lorsqu'on n'a pas le cursus, le bagage qu'il faut, qu'on n'a pas suivi tous les cours d'encadrement à partir du peloton jusque, je ne sais pas, un bataillon et consorts, on peut effectivement avoir des difficultés à gérer les hommes qu'on a sous la main. Donc je crois qu'à ce niveau-là, probablement qu'il y a un problème de formation de ces officiers qui doivent encadrer ces hommes-là. Et aussi, moi je pense sincèrement qu'il y a un problème de gestion des moyens financiers. Ça a toujours été, si vous voulez, le reproche. Je dirais même un reproche qui revient chaque fois. Mais chaque fois que des militaires sont même envoyés au front, bon, on les y envoie, l'argent ne vient pas, la motivation ne vient pas, même l'approvisionnement ne vient pas. Donc il faudrait peut-être qu'on puisse mener des investigations pour savoir qui fait que 4800 hommes, toute une brigade se retrouve sans avoir des approvisionnements, et je répète, dans une région où il ne manque pas à manger. Okay. Moi, je ne pense vraiment pas que l'armée ou le trésor public puisse manquer des moyens pour offrir à manger à ces gens-là. Probablement que soit des gens ont détourné ces moyens-là, ou quelque part, on n'a pas libéré les moyens à temps, et tout cela doit être, à mon avis, ça doit constituer l'objet d'une enquête. On a perturbé, si vous voulez, la quiétude dans la ville de Bukavu. Mais ça ne doit pas se terminer avec, comme on a dit, des causeries morales. Non, il faudrait que l'inspection de l'armée, dirigeante une enquête et qu'on sache qui n'a pas fait correctement son travail.
Merci, Félix Kabouzi. Nous allons terminer ce chapitre avec vous, Albert Comba. Vous avez suivi Félix qui dit qu'il faudrait, comme solution, mener des enquêtes pour déterminer les différentes responsabilités, qui a fait quoi, à quel niveau le commandement n'a pas été bien donné, mais il a également posé le problème du cursus même des commandants qui sont au-dessus de ces différentes troupes-là. Quelle solution ? Se limiter seulement à l'enquête, parce que la population, vous avez suivi le témoignage de cet habitant qui expliquait comment hier il était bloqué quelque part parce que ça tirait de partout.
Oui, c'est comme je disais, la gestion des troupes, ça demande l'organisation du travail. C'est-à-dire, dans les troupes, il y a différents aspects organisationnels. On a d'abord un corps pour la logistique. Ce corps doit être bien doté avec tout ce qu'il faut. Il y a un corps pour l'entraînement, il y a un corps pour les finances. Donc, tous ces différents corps doivent fonctionner sur une même coordination. Et cette coordination doit être dynamique. On doit être dynamique, il ne faut pas qu'il y ait un retard quelque part pour le paiement, par exemple, de la solde, et on doit attendre un document de Kinshasa, tout ça. Non, ça doit être les troupes qui sont opérationnelles sur le terrain, ils doivent être bien motivés pour qu'ils ne se révoltent pas.
Merci Albert Omba. Toujours dans ce même registre des hommes en uniforme, Alain Doss se dit inquiet face à la lenteur du processus de paix de Goma pour le chef de la MONUC, aussi longtemps que le programme AMA Mani ne va pas se matérialiser, la situation de plusieurs familles du Nord Kivu restera fragile et elles ne seront pas retournées dans leur foyer. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo l'a dit le mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC à Kinshasa. Les propos d'Alain Dos sont recueillis par Jocelyne Moussaoupondé.
Je voudrais, en ma qualité de co-facilitateur, exprimer mon inquiétude face à la lenteur du processus de paix de Goma. Il est impératif que la commission technique mixte sur la paix et la sécurité et ses organes subsidiaires commencent enfin à discuter des questions de fond. Je veux parler ici du calendrier des désengagements, du brassage, du retour des populations chez elles et des nombreuses autres questions importantes que ces organes sont appelés à traiter. Pour ce faire, il est indispensable que toutes les parties concernées restent une fois pour toutes assises autour de la table et que les uns et les autres cessent de paralyser le processus de manière récurrente en suspendant leur participation aux travaux de la Commission sous divers prétextes. Il est aussi urgent que les instances législatives congolaises prennent les dispositions qui s'imposent afin de permettre la mise en œuvre concrète des actes d'engagement et notamment sous la loi sur l'amnistie.
Signalons que le calme est revenu mercredi dernier à Rutshuru Centre et à Kiwanja après des violentes manifestations contre les casques bleus de la MONUC. Lundi soir et mardi matin, dans ces deux localités voisines situées à plus ou moins 70 km au nord de Goma, 2 à 3 000 manifestants exigeaient le retrait de la MONUC de la localité tampon de Moutabo à 7 km de Rutshuru Centre pour y laisser revenir les militaires FARDC qui s'étaient désengagés de cette localité dimanche dernier à la suite d'un accord entre la 6e brigade intégrée basée à Rutshuru et le CNDP et la MONUC. Je reviens vers vous, Nicodème Bakoleta. Vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben de Beni dans le Nord Kivu. Le processus Amani, selon Alain Dos, le patron de la mission des Nations Unies au Congo, n'avance pas. Comment vous réagissez,
oui,
vous qui êtes
sur le terrain
et le constat que vous faites?
Oui. L'inquiétude du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Alain Dos, est bien fondée. Hein. Le programme Amani, le programme national de sécurisation ou pacification, stabilisation, des choses comme ça, a été créé par une ordonnance présidentielle du 2 février, si j'ai encore une bonne mémoire, 2 février 2008. Et nous sommes aujourd'hui au mois de juin et le faire corps à l'étape de sensibilisation des groupes armés. Voyez-vous, le chronogramme de ce programme sera difficilement respecté. Et bien, pourquoi donc tout ce retard? Visiblement, on trouve que le gouvernement a des difficultés pour financer ce programme. Et cela entrave même la bonne marche du programme Amani. Il y a aussi le manque de volonté de certains signataires même de l'acte d'engagement de Goma, donc à faire le pas dans le sens de la paix, et ce qui rend donc la tâche tout à fait difficile. Les groupes armés, signataires de l'acte d'engagement de Goma, ils se sont engagés à cesser les hostilités sur toute l'étendue de la province, à ne pas procéder à des nouveaux recrutements. Mais qu'est-ce qu'on assiste ici? Mais c'est déplorable. Le langage des armes ou encore des beaux jours, des affrontements sont signalés entre les FARDC, CNDP. Cela arrive au moment où on attend un désengagement des groupes armés et que ceux qui désirent continuer dans l'armée doivent passer par le brassage. Brassage pour entrer dans les forces armées de la République avec lesquelles on continue à s'affronter. Voyez-vous ce que ça fait? Donc au-delà de cela, aujourd'hui on est en train de sensibiliser les groupes armés signataires de l'acte d'engagement. Et vous savez, cette sensibilisation contraste même avec certaines réalités sur le terrain. Il y a des démobilisés ici, pour le donner le cas, il y a des démobilisés, des personnes qui ont quitté l'armée pour intégrer la vie civile, qui malheureusement ne sont pas suffisamment bien encadrées. Et ce qui fait que ces personnes s'adaptent difficilement à la vie civile, et du coup, elles sont exposées à toute fratrie. On sensibilise pas pour le programme Amani ici, en même temps là, on recrute les éléments pour je sais pas quoi. Donc toute cette situation fait que le programme Amani ne marche pas.
Merci.
Tout à fait.
Merci.
Mais je voulais glisser un mot en rapport avec ce que vous avez dit.
Oui, rapidement, oui. Allez-y.
À retour, vous avez évoqué les cas où la population s'est insurgée contre la MONUC. Mm-hmm. Je pense qu'il y a question d'information, parce que même dans l'acte d'engagement de Goma, mm-hmm. Il a été demandé à la MONUC quand même de se déployer dans les territoires occupés par les groupes armés. Donc je pense que le déploiement de la MONUC pour créer une zone tampon, c'est conformément au programme accord de Goma, et que c'est par manque d'information que la population peut-être s'est infligée contre la
police. Merci, merci Nicodème Bakoleta, Félix Kabouzi. Vous avez suivi Alain Dos, le patron de la MONUC. Vous avez également suivi la lecture que fait notre confrère de Béni, Nicodème Bakoleta. Et il dit c'est tout à fait fondé l'inquiétude du patron de la MONUC. Il parle notamment des difficultés de moyens du gouvernement qui ne dispose pas des moyens financiers pour justement financer ce programme, les raisons de ce retard, de la lenteur que prend le processus à Mani. Il a parlé également de la mauvaise foi de certains acteurs signataires de l'acte d'engagement et également le manque d'encadrement de certains démobilisés qui ont quitté l'armée de leur propre gré et qui se retrouvent démunis, ils ne sont pas encadrés et ils sont tentés par certaines personnes qui veulent le recruter, certains groupes armés. Et enfin, il a réagi par rapport à la manifestation. Lui pense que si les populations de Moutabou ont manifesté contre la MONUC, c'est peut-être à cause du manque d'informations, parce que, comme il a dit, cela est l'une des recommandations même de l'acte d'engagement. Votre lecture par rapport à ce programme à Mani?
Oui, je crois que Nicodème a fait un commentaire assez suffisant sur le dossier. Je voudrais juste peut-être rappeler deux ou trois petites choses. La première chose, c'est que le programme à Mali apparaît comme une solution de dernier chance pour le Nord Kivu. Si on doit se rappeler le désastre que cette province a vécu lorsque les CNDP et les FARDC s'affrontaient il y a quelques mois, je crois qu'on a tout intérêt vraiment à se souder pour que ce programme-là réussisse. Deuxième élément par rapport aux moyens, moi je constate que le gouvernement avait mobilisé suffisamment d'argent pour la tenue de la conférence sur la paix dans le nord et le sud Kivu. Le gouvernement avait mobilisé pas moins de 10 millions de dollars avec autour de 2000 participants. Donc je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne chose qu'après avoir mobilisé autant de moyens, on a réussi à organiser le cessez-le-feu entre les différents belligérants dans le nord et le sud de Kivu, qu'on puisse évoquer aujourd'hui un problème de manque de moyens pour traduire dans les faits, n'est-ce pas, le programme à Mali. Et si mes informations sont bonnes, le programme à Mali devait également être financé dans une certaine mesure par la coopération internationale. Je crois qu'il y a un problème de mon point de vue du chronogramme qui doit être mis en œuvre. On avait défini un ensemble de tâches qui devaient être faites. Et c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, 4 ou 5 mois après, on a l'impression qu'on est revenu presque comme avant la signature.
Je tiens à préciser que le CNDP de Laurent Kunda s'est retiré de toutes les commissions. Il y a également un autre groupe armé, le FRF, qui est basé au sud Kivu, qui s'est retiré également du processus.
Mais oui, justement parce que bon, il reproche au gouvernement une certaine dictature dans des choses qui devaient être faites de commun accord. Moi, je pense qu'il faudrait que les acteurs du programme à Mali se retrouvent pour lancer très rapidement ce programme, autrement le Nord Kivu risque encore de sombrer dans la violence.
Albert Omba, journaliste de Numérica et Tropicana FM, vous avez suivi Félix Kabouzi qui intervenait par rapport à cette question, à cette lenteur même de l'application de l'acte d'engagement de Goma. Il dit que c'est pratiquement la dernière chance pour que la paix revienne dans les deux Kivus, mais il estime, il est un peu sceptique par rapport à la question. Si le gouvernement brandit l'alibi du manque de moyens, il lui pense que ce n'est vraiment pas fondé parce que le gouvernement avait engagé des moyens pour organiser cette conférence et aujourd'hui on ne peut pas comprendre comment est-ce que le fait de manquer de moyens peut être à la base de la lenteur du programme Amani. Il parle également du chronogramme qui ne semble pas très clair.
Oui, je crois que le message de M. Alain Dos s'adresse à quatre catégories, c'est-à-dire à quatre aspects. Il s'adresse d'abord aux responsables du programme à Mani, aux groupes armés, au gouvernement et à la communauté internationale. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait ici, c'est de demander aux responsables du groupe à Mani de réchauffer un peu, de réactiver tout ce qu'il y a comme arsenal juridique, administratif et tout ça pour réorganiser un peu l'évolution de la procédure ou du processus à Mani. Donc, ici, on constate une certaine lenteur ou un relâchement au niveau des animateurs du groupe. compte tenu peut-être de réaction de certains groupes qui se disent et se retirer du processus, ce qui n'entraîne pas quand même l'évolution. Au groupe armé, c'est une mise en garde de responsable de la MONUC pour leur dire que ça ne sert absolument à rien de se retirer du processus parce qu'ils ne gagneront rien. Vous avez cité ici le groupe FRF et le groupe le CNDP qui se sont retirés. Il y a un autre groupe encore qui voulait aussi se retirer du processus. Ça ne facilite pas l'évolution des choses. Bon, au niveau du gouvernement, il y a un problème aussi de financement, comme le doyen Kabouzoué le dit. C'est-à-dire, si le gouvernement a mis beaucoup de paquets pour l'organisation de la conférence, il faut maintenant mettre beaucoup de moyens actuellement pour que le processus évolue. Bon, on vous dira que non, il y a au niveau aussi du Parlement les documents sur la loi sur l'amnistie
qui traîne, qui est attendue. Oui.
Oui. Alors tout le monde trouve un prétexte sur cette loi-là. Alors que je crois que nos amis du Parlement devaient faire diligence pour doter le groupe Amani de cette loi, au lieu de s'occuper des interpellations, de tout ça et tout ça. Bon, ça c'est le quotidien, mais c'est un document extrêmement important auquel les amis du Parlement doivent s'atteler pour fournir comme document de base à l'évolution du processus. À la communauté internationale, le gouvernement a le devoir aujourd'hui, compte tenu de moyens dont il ne dispose pas pour faire avancer les choses, le gouvernement doit dire clairement à la communauté internationale de le venir en aide, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses lors de la tenue de la conférence de paix à Goma.
Merci à Albert Omba. Rapidement, Nicodème Bakoleta, Albert Omba a analysé la question et puis il a donné des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ce processus marche, pour que ce processus, le chronogramme tel que défini lors de la signature de l'acte d'engagement soit respecté?
Oui, les confrères l'ont très bien dit. Hein. Il faut d'abord le moyen pour que le processus puisse bien marcher. Il faut que le gouvernement donne des moyens au programme Amali. Et aussi, il faut une bonne implication des acteurs, des filiateurs de l'acte d'engagement de Goma, mais aussi, parce qu'on a été à Goma pour la conférence sur la paix.
Oui, rapidement là.
Au même moment, au retour, il y a des groupes armés qui se créent, qui se forment une autre région qui se crée. Alors, il faudra pour de tels cas que le gouvernement, que l'armée puisse être à mesure de mater les autres groupes. Parce qu'on croit que, voilà, il faut faire un groupe armé pour tirer je ne sais pas quel bénéfice. Donc, il y a des choses comme ça qui se font ici.
Merci, Nicodème. Rapidement, Félix Kabouzi, des pistes de solution.
Ah, des pistes de solution, je crois que la question de l'amnistie doit être rapidement évacuée à l'Assemblée nationale, mais il me semble qu'il y a encore quelques contingences, puisque le texte avait déjà même été adopté en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale, mais il paraît que le MLC et d'autres membres de l'opposition avaient estimé qu'on ne pouvait pas avoir une loi d'amnistie uniquement pour une province ou deux provinces et qu'elle devait être étendue à l'ensemble des crimes ou des problèmes, des infractions politiques qu'on a connues. Donc je crois qu'il y a probablement encore des négociations qui se font pour que cette question-là soit réglée. Je crois qu'elle est importante puisqu'elle doit rassurer, n'est-ce pas, les différents protagonistes du Nord et du Sud Kivu. Je crois même que les gens du CNDP peuvent avoir beaucoup de raisons d'être un peu méfiants lorsqu'une telle loi n'est pas encore adoptée.
Merci.
Donc je crois que cette piste-là elle est absolument importante.
Merci Félix Kabouzi. Nous passons donc au troisième sujet de notre tribune de la presse. Jean-Pierre Bemba, Mathieu Gougelot, Germain Katanga et Thomas Lubanga font l'objet des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Au cours de cette semaine, le leader du MLC s'est présenté devant les juges belges pour demander sa mise en liberté provisoire, tandis que Mathieu Gougelot et Germain Katanga, deux leaders de milices de l'Ituri, sont en principe ce vendredi que devait se tenir à La Haye, aux Pays-Bas, l'audience de leur confirmation des charges. Par ailleurs, la CPI a suspendu le procès contre Thomas Lubanga pour insuffisance d'éléments dans ce dossier. Suivons les détails avec notre confrère Willy Akoma.
À propos de la demande de mise en liberté provisoire, réclamée mercredi dernier par les avocats du chairman, la Chambre des mises en accusation de Bruxelles doit en principe se prononcer ce vendredi. Pour rappel, mercredi dernier, le leader du MLC avait alors assuré cette instance judiciaire de sa crédibilité à comparaître librement devant la CPI, excluant toute crainte de fuite. De l'autre côté, à La Haye, aux Pays-Bas, s'ouvre ce vendredi 27 juin l'audience de confirmation des charges contre Maxime Guggiolo, ancien dirigeant du Front des nationalistes et intégrationnistes, FNI, et Germain Katanda, commandant de la force de résistance patriotique en Ituri, FRPI. Les charges contre les deux hommes consistent en des accusations des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, présumés avoir été commis lors d'une attaque menée contre les villages de Bogoro en Ituri aux alentours du 24 février 2003. Il convient de rappeler que cette phase ne préjuge pas de la culpabilité des suspects, mais vise à protéger les droits des suspects en évitant que ne soient portées contre eux des accusations qui ne sont pas suffisamment fondées. Il y a aussi les dossiers Thomas Lubanga, dont les débuts du procès étaient prévus pour le 23 juin dernier. Mais les juges de la CPI ont estimé qu'il ne disposait pas suffisamment d'éléments pour débuter ce procès. Il faut signaler que le procureur de la CPI refuse pour l'instant de donner certains éléments aux avocats de Thomas Lubanga, estimant que ces éléments doivent être gardés secrets. Ces éléments proviennent notamment des Nations Unies et de certaines ONG. Pour certains analystes, ces éléments peuvent soit disculper Thomas Lubanga, soit diminuer la gravité des charges portées contre lui.
Nicodème Bakoleta, vous avez suivi le reportage de notre confrère Willy Akonda, Jean-Pierre Bemba, qui s'est présenté devant les juges pour demander, donner les garanties pour sa liberté provisoire. Il y a le procès de Thomas Lubanga qui est suspendu pour insuffisance d'éléments dans son dossier. Et Mathieu Guggiolo et Germain Katanga, on leur a signifié les chefs d'accusation. Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à ces Congolais, à ces compatriotes qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale?
En fait, il y a plusieurs cas. Il y a le cas de Jean-Pierre Bemba.
Exact.
Ça, on a plusieurs fois évoqué ici. Il faut noter que la justice belge se limite à la forme de cette arrestation de Jean-Pierre Bemba. Et la question de fond intéresse plutôt la Cour pénale internationale. Mmh. Alors, jusqu'ici, les avocats de M. Bemba, de M. Jean-Pierre Bemba, me demande qu'une mise en liberté provisoire. C'est une liberté provisoire. Je pense que la grande inquiétude de la justice belge serait d'obtenir des garanties sincères que M. Jean-Pierre Bemba ne va pas s'échapper et qu'au moment opportun, on peut le récupérer pour son transfert à La Haye. Mais pour que la question des fonds soit traitée au niveau de la CPI. Alors, lui refuser cette mise à liberté provisoire, pour moi, personnellement, je l'ai suivi, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Et
même la jurisprudence peut nous aider parce que l'état de tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ce tribunal avait accordé une liberté provisoire à un accusé des crimes de génocide. Vous voyez, ce sont des crimes graves. Mais en fait, à rapport avec ce qui s'est passé à Ituri, je suis sur Denis, c'est à 200 km de Bouya, chef lieu du district de Ituri qui a traversé une période sombre, vous le savez, avec les guerres interethniques. Au temps fort de la guerre, les miliciens, donc des milliers de personnes ont été déplacées ici, jusqu'ici, les affrontements à Bouya. Ils sont arrivés avec des stress, des traumatismes à cause des atrocités qu'ils ont vues. Hein. Et quand la CPI s'est saisie de dossiers, s'est saisie même des seigneurs de guerre qui ont endeuillé ces districts, cela a suscité ici un espoir, un réconfort moral, je dirais, à tous ceux qui ont vécu ont fui la guerre de l'Ituri. Mais aujourd'hui, cet espoir est mis à mal avec cette suspension. Comme vous venez de dire, je pense que les éléments, comme vous l'avez dit évoqué, les éléments que le procureur détient provient de la mort des ONG, et que si l'Organisation des Nations Unies ainsi que les ONG ont besoin vraiment d'aider le peuple ituriens par respect des victimes et pour la crédibilité de cette institution qui se veut être une juridiction de dernier recours, eh bien, il faut qu'on puisse autoriser au procureur de divulguer certains documents pour permettre l'avancement de ce procès.
Merci Nicodème Bakoleta. Albert Romba, un commentaire par rapport à ces différents cas des Congolais poursuivis par la Cour pénale internationale.
Oui, les commentaires que je pourrais faire, c'est là.
Il y a notamment l'affaire Thomas Lubanga, hein, qui suspend et qui n'arrange pas les ONG et les différentes associations de la société civile.
Oui. Les commentaires que je peux faire, ça, c'est le constat que je viens de faire, c'est la lenteur dont les dossiers prend, l'évolution du processus ou de la procédure judiciaire entamée par la CPI. Et vous verrez, pour le cas, je prends le cas de Lubanga, ça fait pratiquement 3 ans que ce dossier que M. Lubanga a été arrêté, mais jusque-là, on n'a même pas encore commencé le procès. Et ça inquiète si, pour le cas du premier, la première arrestation, ça prend 3 ans. Alors, le cas des autres qui viennent d'être arrêtés, ça prendra encore combien d'années? Donc, il y a une grande lenteur au niveau de la procédure aussi. Et pour ce qui est de M. Jean-Pierre Mbemba, je crois que nous laissons le temps à la justice belge de voir, elle est indépendante, de voir si elle peut accorder la liberté provisoire. Seulement, il faut rappeler que la question du fond, c'est au niveau de la CPI, comme nous avons toujours répété, que la défense devait se concentrer pour exiger déjà la liberté provisoire au moment où on va signifier les actes qui sont portés à charge de M. Jean-Pierre Bemba. Donc, conjointement, il faut poursuivre le dossier au niveau de la justice belge. Okay. Il faut aussi que les avocats soient déjà au niveau de la justice, de la Cour internationale, pour savoir et entamer déjà la procédure avant que M. Mbemba ne soit transféré à ce niveau-là.
Merci Albert Omba. Félix Kabouzi, une analyse par rapport à tout ce qui se passe en ce qui concerne nos compatriotes, les Congolais poursuivis par la Cour pénale internationale?
Bon, donc je voudrais d'abord établir deux points. Le premier, c'est que Jean-Pierre Bemba, la procédure est encore au niveau de la Belgique.
Je vous en prie.
Et le deuxième, c'est le cas de Thomas Lubanga et de Mathieu Ngoudjolo et Germain Katanga, où la procédure se trouve déjà au niveau de la CPI. Alors, en ce qui concerne Thomas Lubanga, je crois que il va falloir qu'on rappelle à l'opinion que Thomas Lubanga est poursuivi pour le recrutement des enfants. C'est la seule charge que la CPI a retenue à son endroit, et que par rapport à cette charge-là, d'après les informations qui ont été publiées il y a une semaine et demie, la CPI a dit qu'elle a reçu au moins 200 documents de la MONUC et des ONG, et ces documents ont été reçus sur le sceau de la discrétion, c'est-à-dire c'est des documents qui ne doivent pas du tout être communiqués ni au juge, ni à la défense, c'est-à-dire les avocats de Thomas Lubanga. Mais récemment, on a appris que la MONUC aurait levé le secret et a demandé simplement que les documents soient communiqués au niveau de juge. Et c'est là où la défense de Thomas Lubanga réplique en disant qu'il n'y aurait pas justice à ce moment-là. Il va falloir que, si on lève le secret, que les documents soient également communiqués à la défense, de telle sorte que M. Thomas Lubanga soit en mesure, n'est-ce pas, de se justifier en connaissance de cause. Okay. Donc vous aurez remarqué que par rapport à Mathieu Ngoudjolo et à Germain Katanga, Thomas Lubanga n'était poursuivi que pour un seul grief. Alors que pour les deux autres, il y a au moins 5 griefs. Il y a, comme on a dit, n'est-ce pas, des attaques dans le village de Bogoro, il y a eu des massacres, on a parlé d'esclavage sexuel, on a parlé de viol, on a parlé de pillage, et pour le cas de Bemba, c'est à peu près la même chose. Donc une longue liste des griefs qui sont retenus.
En conclusion,
je pense qu'il y a probablement une lueur d'espoir pour M. Thomas Lubanga, puisque si jamais il y avait procès, comme on a dit, il y a des circonstances atténuantes, il pourrait éventuellement s'en saisir pour éventuellement, si vous voulez, demander sa libération, mais évidemment, il va falloir, à mon avis, qu'un procès juste soit organisé, de telle sorte que les victimes de l'Ituri et même de Bangui puissent effectivement trouver réparation.
Merci Félix Kabouzi, directeur de publication du quotidien La Référence Plus qui paraît à Kinshasa. Merci également à Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio Télévision Graben de Béni dans le Nord Kivu. À vous également Albert Omba, journaliste de Numérica et Tropicana FM. Nos remerciements s'adressent également à Guy Maté et à Guy Mandangou qui est à la réalisation et l'autre à la mise en onde. Bonne suite de programme sur Radio Capi.